RCF. RCF, le béaba du christianisme.
Pauline Jaricot, bientôt béatifiée, la date de la cérémonie est fixée, ce sera le 22 mai 2022 à Lyon. Alors à l'occasion du mois missionnaire qui a lieu chaque année au mois d'octobre, eh bien coup de projecteur sur cette Lyonnaise qui a fondé l'œuvre de la propagation de la foi, qui deviendra ensuite les œuvres pontificales missionnaires. Gaëtan Bourchalat-Chazotte, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le secrétaire général des œuvres pontificales missionnaires France. Avant de parler de Pauline Jaricot, on parle souvent de mission dans l'Église, mais que recouvre plus précisément ce mot ?
Écoutez, la mission, alors, elle a revêtu différentes manières de se dérouler dans l'histoire, mais la mission d'abord s'enracine dans notre baptême. Chaque baptisé est missionnaire. Après, la mission, nous pouvons l'assurer de différentes manières en fonction de notre état de vie. Ce peut être en priant, simplement. Ce peut être en partant, effectivement, puisque le Christ, et cela nous est dit dans l'Évangile, nous invite à aller annoncer l'Évangile du salut jusqu'au bout du monde.
Donc on est à la fois dans l'annonce de l'Évangile, mais aussi dans l'attention à son prochain.
L'attention à son prochain dans le sens où, à partir du moment où je connais le Christ et où j'ai la joie d'imaginer et d'espérer le salut, j'ai besoin de le transmettre et c'est une richesse que je veux partager. C'est un cadeau que nous avons reçu et que nous voulons partager avec l'ensemble du monde, l'ensemble de nos frères sur cette terre.
Alors justement, cet esprit missionnaire, il est inscrit au cœur de l'Évangile ?
Il est inscrit au cœur de l'Évangile. Le Christ nous envoie, il envoie ses disciples aller enseigner toutes les nations et de toutes les nations faites des disciples. C'est d'ailleurs pour cela que le pape François insiste beaucoup sur le rôle des disciples missionnaires. Nous sommes tous disciples missionnaires dès lors que nous sommes baptisés.
Alors, il y a différents charismes quand on est missionnaire ?
Il y a bien sûr différents charismes, parce que ça peut être lié à nos différents états de vie. Évidemment que je m'engage, je deviens prêtre et j'entre dans un institut missionnaire, je suis évidemment plus porté à aller annoncer directement dans les territoires où le Christ n'est pas encore connu. Mais l'annonce de l'Évangile est toujours une action du missionnaire. Bien sûr, elle va porter, disons qu'elle va être supportée par une action d'entraide, d'aide, d'éducation, ce que nous avons connu lors de toutes nos périodes d'évangélisation en fonction des siècles, qui ont été chaque fois différentes. La deuxième partie de votre question soulevait la question de la nouvelle évangélisation indirectement. Et effectivement, c'est très important de prendre conscience que nous avons à la fois un devoir auprès du prochain, celui qui est proche de nous, donc d'annoncer, de témoigner de Jésus-Christ et de la manière dont il nous habite. Mais ceci ne peut se faire sans avoir à l'esprit l'ouverture missionnaire, ce qu'on appelle dans un jargon plus un peu théologique, la mission ad gentes, c'est-à-dire la mission au-delà de nos frontières, la mission vers ceux dans les pays qui n'ont jamais été évangélisés. En fait, c'est un peu les deux poumons de l'Église. Il serait difficile de comprendre que nous ayons un besoin d'évangéliser juste autour de nous sans avoir à l'esprit également la mission ad gentes, la mission ad extra, la mission au-delà de nos frontières.
Donc la mission au-delà de nos frontières, elle est importante justement. Pauline Jaricot incarne un visage de la mission, lequel ?
Oui, alors Pauline Jaricot, à son époque, et c'est cela qui est intéressant, c'est une époque où il faut tout reconstruire, et bien justement, elle va s'intéresser à la fois à ce qui se passe ici à Lyon, puisque c'est le territoire où elle se trouve, mais aussi à la mission, donc, ad gentes, la mission au loin. Elle aura connu les difficultés des missionnaires, elle s'intéresse énormément sur ce qui se passe donc au-delà de nos frontières, dans ces pays qu'on ne connaît pas. Le missionnaire est aussi un explorateur, très souvent. Et elle va organiser la connaissance de l'activité missionnaire de tous ces hommes qui vont partir, ces religieuses qui vont partir, par les personnes qui restent ici, en les invitant à prier et à les soutenir financièrement.
Voilà. Alors justement, peut-être qu'est-ce qui animait Pauline Jaricot ? Comment elle en est arrivée à fonder cette œuvre, tout simplement ? C'est la patronne de la mission, quand même.
Alors, elle n'est pas encore patronne des missions, on l'espère. Hein. Il serait beau qu'elle soit un jour co-patronne des missions avec Thérèse de Lisieux, qui est une religieuse, François-Xavier, qui est un prêtre religieux aussi. Et donc, nous aurions une laïque qui viendrait compléter ce binôme pour faire un trio assez émouvant et puis surtout un beau témoignage et rendre accessible l'idée de mission à l'ensemble des fidèles.
Alors justement, comment est né cet esprit missionnaire chez Pauline Jaricot ?
Dès son enfance, Pauline Jaricot est née dans un univers très chrétien et dès son enfance, elle fait des rêves de mission. Il faut imaginer qu'à l'époque, au 19e, on n'a bien sûr aucun, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a même pas de journaux qui parlent de l'ailleurs. Donc, en fait, elle va découvrir et être enthousiaste à l'idée d'annoncer le Christ. Donc, Pauline Jaricot, toute son action, y compris son action sociale, est dirigée vers l'évangélisation. C'est-à-dire que pour elle, s'il y a action sociale, c'est pour mettre l'homme debout. Et parce qu'on ne peut annoncer l'évangile et le faire entendre que si la structure humaine existe. Et voilà, d'où son intérêt pour la cause ouvrière, par exemple. Puisqu'elle va considérer, elle va se rendre compte en tout cas que les ouvriers sont parfois maltraités en termes d'horaires de travail, de rémunération, et que en l'état, ils ne peuvent avoir une vie familiale normale, et donc évidemment pas de vie spirituelle.
Alors comment elle va tisser cette toile qui fait qu'aujourd'hui, les œuvres pontificales sont présentes dans le monde entier ?
Son initiative va... On va dire qu'elle est une faiseuse de plans. C'est un terme qui a été écrit par un des auteurs qui parle de Pauline. Ce plan-là, en l'occurrence, il s'agit d'intéresser un groupe à la question missionnaire, de lui donner des informations et de lui demander la prière et un petit sou par semaine, le partage. Et on va demander à chacune des personnes de ce groupe de créer elle-même un autre groupe. Donc va ainsi se mettre en place toute une chaîne multipliante, si je puis dire, qui va permettre d'avoir une organisation assez, assez bien ficelée, avec des chefs de dizaines, des chefs de centaines, des chefs de milliers. Grâce à cela, on va pouvoir développer un réseau considérable. Je pense qu'à notre époque, elle serait sur les réseaux sociaux, certainement. Et donc, le champ d'action de l'œuvre de la propagation de la foi qu'elle fonde va se trouver démultiplié de manière absolument exceptionnelle.
C'est à la fois une spirituelle et une femme d'affaires, Pauline Jaricot ?
Ah, le mot femme d'affaires me gêne un peu.
Pour la bonne cause,
mais... Oui. Disons qu'elle a les pieds sur terre, elle est issue d'un milieu industriel fortuné. Voilà, donc elle est. Mais en l'occurrence, la seule fois où elle se lance vraiment dans les affaires, c'est son aventure de Rustrel. Ça ne va pas très bien se terminer. C'est-à-dire qu'elle va acheter des usines, confier l'ensemble de la gestion de ces usines à deux personnes qui lui sont recommandées, qui s'avéreront être des escrocs, et elle va y perdre sa fortune et entraîner avec elle les personnes qui lui ont fait confiance.
Le béaba du christianisme, Pauline de Torsiac.
Alors aujourd'hui, ça représente quoi les œuvres pontificales missionnaires ? Quel type d'action dans 140 pays, je crois ?
Alors les œuvres pontificales missionnaires sont implantées par un bureau au minimum dans à peu près 140 pays dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à aider pour la mission et nous ne sommes pas dans un schéma où il y aurait des pays riches qui aideraient des pays pauvres. C'est l'ensemble de l'Église qui porte la mission. Elle la porte par la prière, dans les célébrations, dans les prières, et elle la porte par l'aide financière. Ce qui veut dire que même les pays les plus pauvres collectent pour la mission. Et c'est ensuite...
Tout le monde participe.
Tout le monde participe. Ce n'est pas les riches vers les pauvres, c'est l'Église qui se prend en main, un petit peu dans l'esprit de la quête que saint Paul demande pour l'Église de Jérusalem. On se prend en main pour aider l'Église là où elle en a besoin. Alors après, il y a bien sûr une organisation administrative qui est nécessaire. Donc les œuvres pontificales missionnaires travaillent sur ce qu'on appelait autrefois, et c'est plus simple peut-être de le dire comme ça, les territoires de mission, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, quelques diocèses d'Amérique latine, quelques diocèses d'Europe de l'Est, qui sont des territoires de première évangélisation, qu'on appelait, qu'on peut toujours appeler d'ailleurs, des territoires de mission. Mais c'est simplement pour être un peu plus clair. Cette organisation va permettre de connaître les besoins, qui vont remonter donc à nos sièges internationaux qui sont aujourd'hui à Rome, qui ne sont plus maintenant à Lyon. Et ces besoins sont recensés, triés, et en fonction de la collecte qui pourra être faite sur l'ensemble du monde, on va assurer un soutien, une distribution dans les diocèses que nous devons aider.
En 2021, quels sont les types de besoins concrètement de l'Asie à l'Afrique ?
Alors les besoins sont de l'Asie à l'Afrique, oui, c'est un grand champ d'action. Les besoins sont immenses et sont constants. Il y a une grosse part de la distribution qui ressemble un petit peu à un denier du culte, c'est-à-dire que la plupart des diocèses, beaucoup de diocèses des territoires de mission, notamment en Afrique, ne pourraient pas vivre s'ils n'avaient pas cette aide qui est donnée par les œuvres pontificales missionnaires. Nous travaillons sur à peu près 1200 diocèses, ce qui est donc absolument énorme, et ces 1200 diocèses ont tous besoin de notre aide. Donc il y a une distribution un peu administrative, si vous voulez, arithmétique, où on aide chaque diocèse pour son fonctionnement. Ensuite, le deuxième besoin qui est assez considérable aussi, c'est donner les moyens pratiques pour que l'évangélisation puisse se faire. Ça peut être construire des maisons paroissiales, construire des églises, bien sûr des chapelles, ou restaurer un bâtiment qui est défaillant. Le Saint-Père crée tous les ans de nouveaux diocèses. Il faut donc installer l'évêque, créer un évêché, même si c'est modeste, ouvrir une cathédrale. Voilà. Donc il y a déjà aussi des besoins qui sont des besoins de type, enfin des moyens de type immobilier. Et puis il peut y avoir aussi, et ça dépend un peu des pays, et bien sûr des diocèses, des besoins pastoraux. Ça peut être l'aide à l'édition de catéchisme, ça peut être l'impression d'ouvrages comme des bibles, des missels, etc. Voilà. Donc on assure toute cette aide. Ça, c'est pour tout ce qui concerne l'œuvre de la propagation de la foi, donc fondée par Pauline Jaricot. Mais si cette œuvre est une œuvre pontificale, il y a à côté d'elle d'autres œuvres pontificales dont nous avons la responsabilité, notamment l'œuvre de Saint-Pierre Apôtre, qui, elle, se préoccupe des séminaires et de la vie des séminaristes, et l'œuvre de l'enfance missionnaire, qui est plus dédiée aux écoles, aux orphelinats.
Pauline Jaricot, béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon, qu'est-ce que ça représente ?
La chance d'avoir Pauline Jaricot sur les autels, c'est qu'elle nous est aujourd'hui donnée comme un modèle d'une femme accomplie, d'une femme missionnaire qui, sans avoir traversé les mers, a eu un effet absolument considérable sur l'activité missionnaire de l'Église. Et je pense que c'est aussi un clin d'œil de la Providence. Pauline est morte en 1862, donc il y a un certain nombre d'années. Elle est vénérable depuis 1963. Si elle l'est béatifiée en notre temps, c'est-à-dire cette année, en 2022, c'est qu'il y a un message, un besoin dans l'Église et auprès des fidèles de nous la donner comme exemple.
En tout cas, c'est un beau message pour la mission.
Oui, c'est un très beau message pour la mission. C'est même très enthousiasmant et nous recevons beaucoup, beaucoup de témoignages, de lettres, de joie qui se manifestent à l'occasion de l'annonce de cette béatification. C'est une joie aussi pour le diocèse de Lyon. Pauline est une fille de Lyon, très enracinée. Et je crois que le diocèse de Lyon, qui est un diocèse, qui a toujours été un diocèse très missionnaire, se réjouit aussi de la béatification de cette fille de Lyon.
Gaëtan Boucharlat de Chazotte, merci beaucoup.
Merci.